Inter, il est 23h. Le journal Victor Pourchet. Bonsoir.
Bonsoir à tous. À la une de votre journal, la contre-attaque de Téhéran. Des sirènes d'alerte dans tout Israël ce soir et des missiles qui sont tombés sur les grandes villes du pays. Nous serons sur place dans un instant. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran aurait l'arme nucléaire. C'est la réaction d'Emmanuel Macron à la grande offensive israélienne au moment où toute une région craint un embrasement. À suivre aussi des centaines de personnes rassemblées dans le silence et le recueillement à Nogent, en Haute-Marne. Marche blanche en mémoire de la surveillante tuée devant son collège par un élève. Et puis le récit au Moyen-Âge, le théâtre du XVIIe siècle ou la poésie du XIXe. Alors il s'est passé comment cet écrit du bac français ? On est allé demander aux lycéens de première.
France Inter.
Après une première journée d'offensive israélienne en Iran, le début ce soir d'une riposte de Téhéran. Plusieurs missiles ont touché l'État hébreu. Attaque revendiquée par les gardiens de la révolution iranienne qui disent avoir visé des dizaines de cibles, notamment à Jérusalem où vous êtes pour France Inter, Alice Moreno. Mais Alice, c'est surtout sur Tel Aviv que les frappes ont été particulièrement violentes.
Absolument, on a vu en début de soirée, dès la première salve de missiles, les impacts sur Tel Aviv. D'épaisses colonnes de fumée se sont élevées de la ville au milieu des gratte-ciel. Selon une chaîne israélienne, ce sont les quartiers généraux du ministère de la Défense israélien qui ont notamment été visés à Tel Aviv. Et le dernier bilan s'élève à une quarantaine de blessés, dont deux dans un état grave. Les sirènes ont retenti dans tout le pays en début de soirée, et ce, à plusieurs reprises en moins d'une heure. Et nous avons vu cette pluie de missiles iraniens dans le ciel, en grande partie interceptée par le dôme de fer. Depuis Jérusalem, où je me trouve à une soixantaine de kilomètres de Tel Aviv, eh bien, on a entendu des impacts, en tout cas des grondements de missiles interceptés et peut-être ces impacts sur Tel Aviv. L'armée israélienne indique qu'environ 100 missiles ont été lancés par l'Iran. Une très large majorité a donc été arrêtée par le système de défense antiaérien.
Alice Moreno en direct de Jérusalem pour France Inter. Merci Alice. Et signe que l'engrenage de violence n'est pas terminé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévient ce soir que davantage de frappes sur l'Iran sont à venir. Et entre deux pluies de missiles, la diplomatie, elle, peine à se faire entendre. Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Donald Trump ont tenté d'appeler à la diplomatie, tout comme Emmanuel Macron, même si dans son allocution ce soir, le chef de l'État a pointé du doigt Téhéran et notamment sa volonté d'étendre son programme nucléaire.
L'Iran porte une lourde responsabilité dans la déstabilisation de toute la région, a soutenu le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, s'est félicité de l'attentat terroriste du 7 octobre à la suite duquel 50 compatriotes ont perdu la vie et détient toujours deux otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris. L'Iran fournit aussi des missiles à la Russie pour l'aider dans son agression contre l'Ukraine. Et donc, je le dis avec la plus grande clarté, le risque de cette marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe et plus généralement la stabilité collective. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique, car c'est une menace existentielle et une menace pour notre sécurité à tous.
Les sites nucléaires iraniens, cibles privilégiées de Tel Aviv, Téhéran, a informé que les autorités atomiques mondiales que deux de ses principales installations avaient bien été touchées, celle de Fordo et d'Ispahan dans le centre du pays. Celle de Natanz, elle, a été détruite. Notez qu'Emmanuel Macron s'était aussi dit prêt à participer à la protection d'Israël. C'était avant les frappes iraniennes du soir. Et que sur le sol français aussi, le chef de l'État augmente la vigilance. Le dispositif Sentinelle, ces militaires déployés un peu partout sur le territoire et renforcés pour faire face à toutes les potentielles menaces. L'inquiétude s'étend surtout aux pays voisins de l'Iran et d'Israël. Marie-Pierre Véraud, vous êtes la correspondante de France Inter à Istanbul, en Turquie. Vous avez observé les réactions dans cette partie du globe et la crainte d'un embrasement régional est bien réelle.
La région plonge dans l'inconnu et redoute une déflagration, une déstabilisation au-delà des frontières de l'Iran. Bien sûr, les condamnations se sont multipliées contre cette agression contre un pays frère, dit l'Arabie Saoudite. L'Irak dénonce la violation par Israël de son espace aérien. Le Liban redoute de replonger dans la guerre, mais le Hezbollah a pris soin de dire qu'il ne lancera pas sa propre attaque en représailles contre Israël. Le sultanat d'Oman, médiateur dans les pourparlers entre Iran et États-Unis, fustige un risque pour la sécurité régionale, car les pays qui abritent des bases militaires américaines, la Jordanie, l'Irak, les pays du Golfe, se savent à portée de missiles iraniens. Téhéran considère les États-Unis complice d'Israël et avait prévenu qu'aucun pays hôte de ces bases américaines ne serait à l'abri. Les États de la région avaient plaidé à la Maison-Blanche pour la voie diplomatique. Ils n'ont donc pas pu convaincre le président américain de retenir la main d'Israël, d'où leurs appels à la désescalade, bien vain dans le contexte actuel.
Marie-Pierre Véro pour France Inter, alors qu'à l'instant, l'Iran dresse un bilan des frappes israéliennes du jour. 78 morts et plus de 320 blessés selon l'ambassadeur iranien à l'ONU. Il est 23h05 sur France Inter. La petite ville de Nogent, en Haute-Marne, s'est recueillie en mémoire de Mélanie, cette surveillante tuée au couteau mardi par un collégien devant l'établissement. C'est là que s'était lancé un cortège de quelques 1500 personnes pour une marche blanche en fin d'après-midi. Rassemblement silencieux, suivi par Agathe Mahué.
Avec des fleurs en quantité sur les grilles du collège et plusieurs centaines de personnes marchant en silence dans cette rue qui longe l'établissement. Les cloches de l'église toutes proches sonnent, mais autour pas de bruit, car c'est le souhait de la famille de Mélanie ce soir. Un moment digne, loin des caméras et des micros, et pas de discours, simplement être ensemble, résume Martine qui vit tout près d'ici.
Bon, on est tous là, ça peut donner un peu de réconfort à la famille, mais ça ramènera jamais cette jeune-là. Qui demandait qu'à vivre. Pauvre parent, et puis le petit, 4 ans. C'est bien triste. Qu'est-ce qu'il lui a pris à ce gamin alors? Quelle mouche qu'il l'a piqué? À 14 ans, faire ça? Mais dans quel monde on vit? Un monde de violence? Quand est-ce que ça va s'arrêter?
Personne ici ne comprend ce qui s'est passé 3 jours après. L'heure est au recueillement à la mémoire de Mélanie, cette ancienne coiffeuse devenue en septembre dernier seulement surveillante dans ce collège où elle a été tuée au couteau mardi. Mais pour se souvenir de sa joie de vivre aussi, le mot d'ordre a été donné ce soir. Pas de vêtements sombres, mais des robes claires, des t-shirts colorés. Dans cette marche blanche jusqu'à la mairie de cette commune de 3500 habitants.
Le reportage d'Agathe Mahué et le suspect, je vous le rappelle, a été mis en examen pour meurtre hier. Les deux chauffeurs d'un car qui s'est retourné sur l'autoroute A81 près du Mans aujourd'hui sont en garde à vue, soupçonnés d'homicide involontaire. Ils sont ukrainiens comme la plupart des passagers victimes. 4 morts, 9 blessés graves, 22 plus légèrement. Ils participaient tous à un échange scolaire. Le trafic aérien en région parisienne est ralentie ce soir à cause des orages. La Direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies de réduire leur programme de vol de 20% au moins jusqu'à minuit. Pour l'heure, 26 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Une partie dans le nord jusqu'à la capitale, une autre dans un quart sud-ouest. Une bonne chose de faite pour un 500 000 de lycéens de première, et leurs parents aussi d'ailleurs. L'écrit du bac français et derrière eux, l'épreuve anticipée avait lieu ce matin. Alors, plutôt confiant pour la note ou pas, Christophe Vincent a posé la question à la sortie du lycée Saint-Just à Lyon.
En filière générale, les candidats pouvaient disserter sur le mensonge chez Corneille, badiner ou pas avec l'amour comme Musset, ou s'intéresser au théâtre de Nathalie Sarraute. Eva a préféré commenter un texte de Barbet d'Aurevilly.
Au fil du texte, on comprend avec les verbes à l'imparfait, comme quoi en fait c'est des récits, c'est des on-dit, donc c'est pas forcément réel, c'est de l'imaginaire un peu. Je pense que j'aurai une bonne note, moi j'espère. 14, 15, ça serait bien.
En filière technologique, Alpha et Ninon sont sortis assez contents d'eux.
Je suis à 6 de moyenne en français. Après, j'ai bossé fort toute la nuit. Faut rendre fière la maman. Avoir la moyenne, ça serait vraiment l'essentiel déjà.
Je me suis plutôt bien débrouillée. C'est surtout le fruit de mon travail. Je suis fière de moi et je pense que ma mère va être fière de moi.
J'espère. C'est une des choses qui regarde le plus sur Parcoursup et le français, c'est quand même une matière très importante. Donc je pense qu'il ne faut pas la négliger.
Beaucoup préfèrent le commentaire à la dissertation. Prof de lettres modernes, Edith Madinier confirme.
Il y a deux freins pour la dissertation sur œuvre. C'est la nécessité d'avoir vraiment travaillé l'œuvre en dehors des extraits étudiés pour l'oral. Et puis la dissertation ouvre davantage la porte au hors-sujet que le commentaire.
Le français compte pour 200 points sur les 2000 du total du bac.
Et pour les terminales généraux et technologiques, dernier week-end de révision, ils planchent sur la philosophie lundi dès 8h. Le sport et le début des barrages de top 14 en rugby. Bayonne rejoint Toulouse en demi-finale en battant ce soir Clermont 20-3. Demain soir, ce sera au tour de Toulon et de Castres de s'affronter. Et puis première journée mitigée pour les Français au championnat du monde de judo. Romain Valadier-Picard a pris l'argent chez les moins de 60 kilos. Mais Shirin Boukli et Luca Mekhedze ratent le podium. On passe à la météo.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Avec vous, Sébastien Léas, je le disais dans le journal, c'est orageux, ça le sera encore demain.
Prudence entre les pays de la Loire, la Normandie, le bassin parisien et les Hauts-de-France, ainsi qu'entre la Nouvelle-Aquitaine et le Midi-Toulousain. Les orages peuvent être violents, s'accompagnant de puissantes rafales de vent, mais aussi de grêle. Les dernières averses s'attarderont jusqu'en début de journée au nord de la Seine, mais l'instabilité va reprendre l'après-midi entre le Limousin, l'Auvergne, l'Aisne, la Champagne et la Lorraine, avec à nouveau des orages localement forts et porteurs de grêle. Plus à l'est, la journée sera plus ensoleillée, malgré quelques bancs de nuages élevés. Entre les côtes de la Manche, l'ouest parisien et le Poitou et des Charentes aux Pyrénées, le ciel sera plus changeant avec des éclaircies qui vont tout de même s'élargir l'après-midi. Prévoyez tout de même quelques averses sur le Finistère et des orages sur les Pyrénées, ainsi que le soir en Aquitaine. La chaleur va persister sur les régions de l'Est avec 29 à 36 degrés demain après-midi, alors qu'il fera plus que 22 à 30 degrés plus à l'ouest.
Merci Sébastien Léas.
France Inter présente
le podcast Espion, une histoire vraie.
Stéphanie Duncan.
Une série de portraits d'agents secrets pour plonger dans les eaux troubles de l'histoire. De Paris à New York, en passant par Moscou, Buenos Aires ou Téhéran, suivez les aventures fascinantes de ces hommes et de ces femmes au destin hors du commun.
Espion, une histoire vraie.
Retrouvez tous les épisodes sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
France Inter, partenaire des Francofolies de La Rochelle. Plus de 80 concerts et rencontres musicales du 9 au 14 juillet 2025 avec Clara Luciani, R, Lamomali, SDM, Ayam, Philippe Catherine, Solane, Cassius, Dali et bien d'autres. Les Francofolies de La Rochelle, un événement France Télévisions et France Inter.
France Inter, il est tout juste 23h12, l'heure de retrouver Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, vive la crise ou les marchands de la rigueur. L'histoire que nous allons vous raconter se déroule en février 1984. Cela fait 3 ans que François Mitterrand est élu président de la République. Il a décrété le tournant de la rigueur 1 an avant. Et évidemment, cette politique n'est pas populaire, surtout à gauche, où d'aucuns parlent de trahison. Alors, pour vendre à ces Français-là un programme pour lequel ils n'ont pas voté, il faut en faire la pédagogie. Formule consacrée pour parler, en vérité, de propagande. Et ça tombe bien, un producteur de télé, Jean-Claude Guibaud, a l'idée d'une émission pour expliquer la crise économique aux Français. Inspiré du livre de Michel Albert, Le Paris français vive la crise, et diffusé en prime time sur Antenne 2 devant 20 millions de téléspectateurs. Un chiffre extraordinaire, à peu près l'audience d'une finale de Coupe du Monde de football où la France joue. Yves Montand, star de la chanson et du cinéma et professeur d'économie d'un soir, n'est pas étranger à ce succès. L'immigré italien prolétaire, ancien sympathisant communiste, est devenu un fervent défenseur du capitalisme. Certains lui voient même un destin à la Ronald Reagan, ancien comédien et syndicaliste devenu président des États-Unis en janvier 81. Bienvenue dans la télé des années 80 sur le service public au cœur des années fric. Notre invité aujourd'hui, François Cusset, historien des idées, professeur de civilisation américaine à l'Université de Paris-Nanterre, auteur de la décennie Le Grand Cauchemar des années 80, publié chez La Découverte en 2006. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano et David Leprince.
Fabrice Drouel,
Affaires sensibles sur France Inter.
Madame, Monsieur, bonsoir. Conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui à l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement vient à l'instant d'en révéler la teneur. Le gouvernement a arrêté une série de mesures d'urgence destinées à enrayer l'aggravation des déficits des dépenses publiques, à commencer par la sécurité sociale. Le nombre des médicaments remboursés sera considérablement réduit. Le montant du forfait hospitalier à la charge des malades est augmenté de 300%. Les allocations familiales seront supprimées pour tous les foyers dont les ressources dépassent 8 000 francs par mois. Les retraites seront versées par la Sécurité sociale. Leur montant sera réduit de 20 à 70% selon les catégories. L'indemnisation des chômeurs sera diminuée de 20%.
Mercredi 22 février 1984, les Français découvrent dans un JT spécial présenté par Christine Ockrent les mesures prises par le gouvernement socialiste pour faire des économies. Devant leur télé, des millions de Français découvrant la casse sociale à venir se sentent au bord du malaise. Certainement la crise d'angoisse des électeurs de gauche qui ont cru au programme commun. Mais tout de suite après ce flash info, un sexagénaire réconforte les familles, les chômeurs et les retraités. Cet homme, c'est l'une des plus grandes stars françaises du XXe siècle. Connu pour ses chansons et ses films, il est devenu en deux émissions, 7 sur 7 et les dossiers de l'écran, une bête de télé qui scotche à leur écran jusque tard dans la soirée des millions de Français.
Rassurez-vous, cela n'est pas vrai. Ce flash est un faux et ces nouvelles sont imaginaires. Mais avouez que vous avez eu peur. Parce que dans le fond, ces mesures, elles sonnent vraies. Elles donnent une idée de ce qui nous attend si la crise s'aggrave. Tous les jours, comme moi, vous entendez parler de catastrophes économiques, d'inflation, de chômage, etc. Alors qu'est-ce qui se passe ?
En costume cravate, Yves Montand déambule sur le plateau en récitant un texte qu'il n'a pas écrit. L'émission n'est pas en direct. Elle a été enregistrée à la fin de l'année 83. Il n'y a ni public, ni interaction téléphonique avec les téléspectateurs. Non, c'est une leçon, un cours d'économie donné par le professeur Montand qui confie. Moi, je suis comme vous savez, j'aimerais bien y voir clair. Comme vous, je me sens embarqué dans une énorme affaire qui m'échappe. Alors, comme vous l'avez sans doute fait, j'ai essayé de comprendre et de me faire expliquer ça clairement. En fin de compte, je me suis aperçu que leur fameuse crise, quand on en raconte l'histoire, toute l'histoire, cela peut devenir aussi passionnant qu'un film. Vous allez voir. Effectivement, le défi est de taille. Parler d'économie sans s'ennuyer, tout en diffusant des idées. Pour présenter cette émission, les producteurs avaient déjà pensé à Bernard Pivot, mais qui a refusé. Alors, ils se sont tournés vers Yves Montand, une personnalité très appréciée des Français. Il faut dire que l'acteur a fait grande impression lors de l'émission 7 sur 7, quelques mois plus tôt. Et entre le moment de l'enregistrement de Vive la crise et sa diffusion, Montand participe à un autre rendez-vous médiatique, mythique, les dossiers de l'écran. Devant 20 millions de téléspectateurs qui saturent le standard de leurs questions, l'acteur se dévoile et parle politique. L'une des présentatrices lit certains messages de téléspectateurs. Yves Montand, vous avez une forte personnalité, mais il faut aller au bout de vos idées. Alors, puisque la politique vous intéresse, présentez-vous à des élections. Ou encore, Yves Montand, arrêtez d'être comédien, faites comme Reagan, bientôt vous serez président. La présentatrice demande à l'acteur, alors Yves Montand, êtes-vous prêt à vous engager dans une carrière politique style Reagan ? Voici sa réponse.
Je suis vraiment très touché de la part de ces nombreuses personnes, mes femmes qui demandent ça. Mais voyez-vous, à l'inverse de Reagan, et je ne voudrais pas être méchant, c'est que Reagan, qui est un bon président, critiquable, bien entendu, n'avait pas réussi, si on peut parler de réussite, dans son domaine qui était la comédie, ou disons la chanson, ce qui n'est pas le cas pour moi.
Montand s'en sort avec une pirouette, mais un autre message de téléspectateurs se veut plus offensif. Monsieur Montand, vous avez un château, un appartement place Dauphine, un terrain en Bretagne, un compte en Suisse, la Colombe d'Or vous appartient, et vous perdez d'énormes sommes au poker. Croyez-vous que tout cela soit compatible avec des idées de gauche ? Peut-être. Et la star, qui a fait une carrière hollywoodienne, n'a pas honte de l'argent qu'elle a gagné. Et puis la gauche, la droite, il faut arrêter ce clivage. Et Montand précise, la droite n'a peut-être pas de programme, mais sait faire du commerce et des affaires, et le fait très bien. Il y en a quelques-uns qui se sucrent un peu trop au passage, quelquefois. Là, on peut surveiller. Mais voyez-vous, l'idéal serait qu'eux s'occupent des affaires et nous, on s'occupe de la culture. Tel est le programme des futurs présidents. Mon temps. Mais revenons à Vive la crise. Un mois et demi donc, après la diffusion des dossiers de l'écran. Yves Montand apparaît cette fois avec une nouvelle ambition, expliquer la crise économique aux Français. Ce n'est pas lui qui a écrit le texte, on l'a dit, mais il a beaucoup lu et il s'est documenté. Et dans la presse, il déclare être d'accord avec lui-même.
La crise ? Quelle crise ? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Bah, avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Enfin, je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables.
Redécouvrir ces privilèges avec un regard extérieur. Dès le début, le ton est donné avec un faux JT, procédé déjà utilisé 4 ans plus tôt dans l'émission Question de temps, diffusée sur TF1. Ce jour-là, Papilia évoque un scénario catastrophe pour la France, un pays privé de pétrole suite à l'arrêt des exportations de l'Arabie Saoudite. Le but, sensibiliser les Français à la question de la dépendance énergétique après le second choc pétrolier de 1979. Autrement dit, dire le faux et envisager le pire pour expliquer. Voilà la méthode choisie pour sensibiliser les Français à la crise qu'ils vivent et justifier toutes les mesures du tournant de la rigueur. En attendant, Montand président, c'est Yves le présentateur qui lance un sujet intitulé « Lettre à Tania » ou « Comment une Russe en visite à Paris explique à une amie à quel point les Français vivent bien et qu'ils n'ont pas matière à se plaindre ». Bon, évidemment, c'est encore un faux sujet de JT.
Dans les journaux, tous les jours, ils parlent de la crise. Ça doit exister, puisqu'ils le disent. N'empêche, des crises comme ça, on en voudrait bien chez nous. L'autre soir, on a dîné chez des amis français. Lui, il est ingénieur dans une entreprise. Et elle, institutrice. Avec 2 enfants, ils vivent à 4 dans un appartement de 120 mètres carrés. Je ne te raconterai pas notre repas. Mais Tania, j'en suis sûre maintenant. La vraie crise qui les menace, ces Français, c'est la crise de foi.
Le sujet se termine avec cette conclusion. C'est vrai que l'histoire que l'on raconte chez nous, l'Occident est pourri, d'accord, mais qu'est-ce qu'il sent bon ? Et toujours très café du commerce, Montand poursuit, pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, de Sibérie ou du tiers-monde par exemple, notre crise ne se voit pas. Et pourtant, 10 ans, oui, ça fait 10 ans qu'elle dure cette crise. Les ficelles sont grosses. On compare la France à l'Union soviétique avec ses queues devant les magasins. Plus tard, dans l'émission, il y aura un parallèle avec la crise de 1929 et les conséquences désastreuses pour des dizaines de millions de travailleurs privés de leur travail et plongés dans la misère. L'idée qui sous-tend toute l'émission est la même. C'est la crise, mais vous n'avez pas à vous plaindre. À l'heure où tous ceux qui ont voté François Mitterrand pour changer la vie en mai 81 découvrent que le socialisme n'est pas si rose que ça, Yves Montand déroule tout un argumentaire en faveur du libéralisme économique. Un revirement de la gauche française qui ne tombe pas du ciel d'ailleurs. Il s'inscrit dans le sillage d'un vaste bouleversement que connaît le monde occidental, où le libéralisme s'impose comme un rouleau compresseur. Dans l'émission « Là-bas si j'y suis », animée par Daniel Mermet sur France Inter et consacrée à l'émission « Vive la crise », le journaliste Serge Halimi souligne que l'année 84 est une date majeure dans la conversion de la gauche aux valeurs du marché. Il prend pour exemple un petit pays pionnier en la matière.
1984, c'est l'arrivée au pouvoir en Nouvelle-Zélande d'un gouvernement travailliste qui sera l'artisan de la réorientation la plus fondamentale de l'économie dans la voie ultralibérale autour d'un modèle qui est le libéral-libéralisme, puisque ce gouvernement travailliste mettra en œuvre une politique ultralibérale au plan économique, mais en même temps, la décentralisation, le droit des femmes, des homosexuels, la défense de l'environnement et la défense des minorités, des Maoris en Nouvelle-Zélande. Donc vous avez en quelque sorte, dans l'ensemble du monde occidental, un basculement qui vise très largement les partis de gauche qui s'adaptent aux transformations induites par Margaret Thatcher et par Ronald Reagan depuis 1979.
Alors qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, bien de droite à cette époque, les syndicats sont attaqués, les droits sociaux sont altérés et les grévistes sont licenciés, voire tabassés. Au Royaume-Uni, surtout, où les méthodes de Madame Thatcher à l'encontre des dockers et des mineurs choquent par leur brutalité. Pendant ce temps, en France, le professeur d'économie Yves Montand, ancien sympathisant communiste, fait ce constat digne d'un pilier de bar. Ces Français, toujours en train de protester, toujours en train de réclamer.
Nous restons des privilégiés, c'est vrai. Et certaines de nos revendications dans nos pays pourraient faire sourire. Tout le monde réclame. Le 13e, le 14e, quelquefois le 17e mois. La sécurité de l'emploi, davantage de vacances, moins de soucis, etc., 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 etc. Parfois on a raison, mais souvent on exagère, vous le savez bien.
S'ensuit la grande catharsis des professions et des revendications. Cela commence par le drame d'un médecin radiothérapeute qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 40% et qui était obligé de se séparer de son employé de maison. Vient ensuite un mécanicien EDF qui souhaite lui rattraper 5% de perte de pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Il souhaite aussi une réduction du temps de travail. D'où viens-tu ? Un jour tu partiras, où es-tu ?
Quand tu es dans mes bras. Je fais des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique, urgent et désirant. Une blonde décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway, road trip, fumée noire, une vente vorace due au fond d'un couloir. T'en sors pas, cafard, battery, idée noire, avalé par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir,
quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir. Je m'enfuis.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, vive la crise.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Février 84. Pendant cette soirée hivernale, près d'un Français sur deux regarde Antenne 2, Yves Montand, leur expliquait la crise économique. Qui l'eût cru ? Un economic show, comme disent les anglo-saxons, ça peut rebuter le téléspectateur, qui est plutôt enclin à se détendre après une journée de travail. Mais il faut dire que cette émission de propagande du libéralisme est plutôt divertissante, avec un professeur Montand enjôleur et des sujets caricaturaux qui s'enchaînent. Premier constat, c'est la crise. Mais c'est quand même moins pire qu'en 1929 et qu'en URSS. Second constat, vous êtes quand même une sacrée bande de râleurs, vous les Français. Vous ne ratez jamais une occasion pour réclamer vos droits. Alors, place aux solutions, les yaka, comme dit Montand. Première solution, celle du Front National, en pleine expansion déjà à l'époque. Alors imaginons, on expulse tous les immigrés et les équipes de production imaginent alors un faux reportage de la télévision algérienne.
Il y a trois mois, les Français avaient applaudi à la tragique décision de leur gouvernement d'expulser tous les travailleurs immigrés. Aujourd'hui, des tonnes d'ordures s'amoncellent. Dans la plupart des grandes villes, des hordes de rats ont refait leur apparition. L'armée a été réquisitionnée, mais elle n'arrive pas à endiguer le fléau.
Bah oui, qui va ramasser nos poubelles maintenant ? Dans ce faux reportage, l'immigré est vu comme de la main-d'œuvre bon marché, corvéable et surtout juste bon pour les tâches sous-payées que personne ne veut accomplir. Exagérer, tourner en dérision, c'est la méthode de vivre la crise. Exemple avec la deuxième solution, fonctionnariser tous les chômeurs. Laurent Geoffrin, qui confectionne le faux reportage, met en scène un ancien chômeur devenu fonctionnaire qui s'ennuie de ne rien faire. Et le supplément de Libération est une mine d'or pour les citations. Le même Laurent Geoffrin a écrit. Comme ces vieilles forteresses reléguées dans un rôle secondaire par l'évolution de l'art militaire, la masse grisâtre de l'État français ressemble de plus en plus à un château fort inutile. La vie est ailleurs, par l'entreprise, pour l'initiative, par la communication. Ironie d'une histoire qui joue à qui perd gagne. C'est la gauche pétrie de références étatiques qui en a fait la preuve. Fin de citation. Revenons à l'émission. Après l'expulsion des immigrés et la fonctionnarisation des chômeurs, examinons la troisième solution. La fermeture des frontières. Alors, ce serait le retour des contrebandiers. Écoutez ce que ferait cet homme qui parle comme Jean Gabin.
Je vais vous donner un exemple. On achète des magnétoscopes dans les supermarchés des grandes surfaces, tout près de la frontière.
Mmh. À l'étranger.
À l'étranger. On les paye dans les 5-6 000 la bête. Mmh. Et après, on les écoule facile en France dans les 20 000 la bête. Alors, résultat. En ôtant les frais de fonctionnement, le bureau, la secrétaire, le téléphone, les enveloppes.
Les enveloppes ?
Ah oui, les pots de vin, voyons. Mmh. Eh ben, on fait deux fois la culbute, monsieur. Deux fois.
Bon, alors, si aucune solution ne fonctionne, pourquoi pas une petite guerre ? Après tout, quoi de mieux pour relancer l'économie ? Yves Montand dit... Vous voyez dans l'histoire, c'est souvent comme cela. Les guerres sont les dernières des solutions qu'imaginent les gouvernements pour sortir de la situation sans issue. Mais alors, est-ce qu'il faut craindre pour de bon une nouvelle guerre mondiale ?
Quand les usines tournent au ralenti, quand le chômage devient insupportable, quand toutes les issues semblent bloquées, la guerre... La guerre réveille les sociétés somnolentes. La guerre développe l'esprit de sacrifice. La guerre fait reculer le chômage. La guerre permet la rénovation rapide du parc immobilier. La guerre relance l'activité économique. La guerre accélère le progrès scientifique. La guerre, le coup de fouet qui vous manquait.
Bien. Et puis il y a évidemment, au cœur de ces années 80, l'incontournable Bernard Tapie, VRP de la libre entreprise et du système D. Cynisme en bandoulière, lui aussi vante les mérites du libéralisme échevelé, un marin donneur de leçons en chanson.
Réussis ta vie, sois poète ou sois paysan, moitié méchant, moitié gentil, à l'aventure évidemment.
Pour l'agence de publicité Safronov et Associés, qui s'offre une page dans le cahier spécial Libération, la solution s'intitule en toute modestie « Debout les morts ». Avant de développer, partout ça crie, partout ça grogne, ça coince, ça désespère, couchez la crise, debout les morts, il faut optimiser. C'est le langage de quelques-uns, tel Yves Montand, hop, au hit parade, il gagne parce qu'il dit haut et fort ce que personne ne veut dire. Eh bien en pub, voyez-vous, c'est pareil. Il faut innover, être rapide, anticiper les courants socioculturels porteurs, prendre le bon risque au bon moment. Bref, secouez-vous. Pour le sociologue Pierre Imbert, cette publicité est une vraie gifle pour une catégorie de Français, principalement tous ces ouvriers qui viennent d'être licenciés. C'est l'idée d'une fracture entre l'univers des médias et de la pub et la France d'en bas.
Pour les publicitaires, pour les gens qui travaillent à la télévision, pour ceux qui travaillent à la radio, pour les journalistes, pour un certain nombre d'intellectuels, 84, c'est l'année du bonheur. Tout va bien. La pub, elle explose. Mmh. La télévision, c'est l'année de la début de la libéralisation, création de Canal+. Les producteurs se sentent libres, ils sont heureux. Mais ça, ce n'est qu'une partie de la réalité. Et l'autre partie, qui est beaucoup plus importante et beaucoup moins présente dans l'émission Vive la crise, c'est 1984, l'année noire du social. L'année noire pour le monde ouvrier. La barre des 2 millions de chômeurs a été franchie quelques mois auparavant. Et c'est un feu roulant de plans sociaux, d'annonces de suppression d'emplois. Et le 8 février, quelques jours à peine avant Vive la crise, le gouvernement annonce le plan de restructuration industrielle.
Sous ce terme technique de restructuration industrielle, ce sont des dizaines de milliers d'emplois promis à la suppression dans quatre secteurs, les charbonnages, l'acier, les chantiers navals et l'automobile. Des licenciements qui condamnent des régions entières à la paupérisation. En 84, les médias, les entrepreneurs, les politiques et les intellectuels crient « Vive la crise !» mais d'autres paient l'addition. Mais que les Français se rassurent, il y a des solutions dans le domaine tertiaire. Car regardez, on a trouvé un jeune entrepreneur formidable qui fait de vrais miracles dans sa région. Il s'appelle Philippe de Villiers. Il est énarque, sous-préfet démissionnaire, et il a monté Alouette FM, une radio, ainsi qu'une cinécénie, le Puy du Fou et un parc d'attractions du même nom.
Le Puy du Fou, c'est aujourd'hui, bien sûr, la quadriphonie, le laser, l'électronique, le stroboscope, l'informatique. Mais c'est surtout 30 000 habitants, originaires de 13 communes, 1500 membres actifs dans l'association, dont 650 acteurs, qui jouent sur une scène de 13 hectares et qui accueillent chaque été 250 000 spectateurs, avec un budget, le budget de l'association du Puy du Fou, qui est de 1 milliard de centimes.
S'ensuit une longue publicité pour toutes les initiatives de Philippe de Villiers qui réussit sans les subventions de l'État. Vous voyez bien qu'on peut s'en sortir sans aide, quand on veut. Mais est-ce assez pour sortir de la crise? Assurément non. La France manque cruellement de talent. Alors, ne faudrait-il pas mettre en commun toutes nos ressources avec nos voisins européens? On pourrait même imaginer les États-Unis d'Europe avec Margaret Thatcher comme présidente. Quoi de mieux qu'une dame de fer pour sortir de l'ornière? Oui, c'est ce que l'émission imagine avec une projection. On voit la dirigeante britannique reçue par Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Une autre séquence montre la nouvelle capitale européenne, Aix-la-Chapelle, et une conférence sur la paix entre les USA et l'URSS. Une autre séquence encore fait le point sur une invention européenne, la Traducette, qui traduit en direct toutes les langues européennes. On découvre aussi le Vinicola, un savant coupage de tous les vins européens, devenu la boisson la plus consommée au monde. Et puis il y a ce projet de film, extrait, avec Christine Ockrent.
Cinecittà, centre mondial du cinéma. Dans les studios romains, le réalisateur Sergio Leone vient de donner cette semaine le premier coup de manivelle de sa gigantesque fresque historique « Il était une fois l'Europe », une fresque qu'il a préparée pendant 10 ans. Pour ce film, Sergio Leone dispose d'un budget record de 40 milliards d'écus. Le tournage, qui va durer 3 mois, s'effectuera dans le plus grand secret. On sait simplement que Sergio Leone a choisi pour l'assister 2 réalisateurs américains, George Lucas et Francis Ford Coppola, qui viennent d'émigrer pour s'installer définitivement à Cinecittà.
L'Europe comme horizon de sortie de la crise, pourquoi pas après tout? Mais comme le rappelle Yves Montand, la première solution, c'est le téléspectateur qui la détient.
Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous. Et vous seul qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt.
Je suis extrêmement déçu. Je m'attendais à un autre langage de la part d'Yves Montand. Il ne peut pas parler d'un problème qu'il ne connaît pas. Puisque parler de la crise pour Yves Montand ne correspond pas à la même façon de ressentir la crise comme moi je peux la ressentir aujourd'hui au niveau des fameuses mutations technologiques puisque je travaille dans le charbon. Vous discutez du problème de la crise, il aurait été peut-être bon qu'on discute, enfin qu'Yves Montand discute de la fiche de paye, qu'on discute éventuellement avec un OS de chez Renault, qu'on discute avec un métallo, qu'on discute avec un gars des chantiers navals, qu'on discute avec un mineur, mais en aucun cas, Yves Montand n'avait le droit de pouvoir parler de la crise, puisque la crise, lui, ne la ressent pas comme moi, je peux la ressentir aujourd'hui.
Ce travailleur déçu est sûrement un Français de l'ancien monde qui refuse de vivre avec son temps. Quelqu'un qui se braque devant l'avenir radieux qui s'offre à lui. Quelqu'un qui n'est pas prêt pour surfer la vague sur la vague de la crise. Alors, il faut qu'il prenne exemple sur Bernard Tapie. En cette même année 1984, l'homme d'affaires explique sa méthode à Laurent Geoffrin.
Moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste qui vit comme un capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné.
Volontiers provocateur, patron, mais aussi homme de médias, Bernard Tapie s'est spécialisé dans le sauvetage des entreprises en difficulté. Plus la crise s'approfondit, plus lui, il s'enrichit.
Vas-y. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4.
la guerre ou la crise, ce sont des événements qui permettent une redistribution des cartes dont seuls ceux qui ont un profil adapté aux problèmes posés vont profiter.
Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une crise, mais qu'il y a des bons et des mauvais.
C'est pas ça, c'est qu'il y a une idée d'adaptation à un certain nombre de gens à faire face aux questions qui se posent. Un footballeur ne peut pas être mis en cause si vous le mettez sur une bicyclette. C'est pas que c'est plus dur ou moins dur, c'est que c'est pas le même genre de sport.
40 ans plus tard, Yves Montand n'est pas devenu président de la République et l'émission Vive la crise apparaît souvent choquante, parfois comique. Allez la voir sur Internet. Elle est disponible, elle vaut le détour. Aujourd'hui, Vive la crise, notre invité François Cusset. Bonjour.
Bonjour.
Historien des idées, professeur de civilisation américaine à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes auteur du livre « La décennie, le grand cauchemar des années 80 », publié chez La Découverte en 2006, et de « La haine de l'émancipation », publié, lui, chez Gallimard l'an dernier. On en dira un mot à la fin de cette interview. Alors, vive la crise, vu comme ça, 40 ans plus tard, parfois il nous arrive d'en faire sensible, d'être assez direct dans les mots. Nous avons parlé de propagande. Est-ce que vous partagez ?
Oui, absolument. C'est comme un précipité d'idéologie, mais pur. Vous voyez, un liquide chimique pur. Alors, on pourrait évidemment, avec les extraits que vous avez, qu'on a écoutés, on pourrait penser que les concepteurs ont, je sais pas, fumé des pétards, pris de la drogue, voilà, ou sont pas dans un état normal. Le problème, c'est que ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, évidemment, il faut se replonger dans le contexte parce que faire un économie show avec de la fiction, des scénarios un peu délirants comme ça, ne prend sens que dans le contexte historique très précis de cette année 84. Pour moi, les deux grands événements qui, en quelque sorte, accouchent de cette émission, c'est bien sûr le tournant de la rigueur un an avant, donc ce qu'on appelle la désinflation compétitive chez les socialistes qui font ce tournant, qui consiste en gros à préférer le chômage à l'inflation, hein, donc à laisser le chômage s'envoler pour pouvoir...
Et garder... pourquoi ? À quelle fin ?
En fait, évidemment, l'argument officiel a été de dire que la France était en faillite, qu'il allait, voilà, que dévaluation après dévaluation du franc, il allait falloir fermer les frontières. Enfin, en fait, si vous voulez, les scénarios de vivre la crise sont aussi les délires dont ont menacé les Français, les socialistes l'année précédente, en disant, désolé, on est obligé de virer à 180 degrés. N'oublions pas, hein, qu'en 1981, Mitterrand élu lance une politique de la relance, une politique qui ressemble à celle du Front populaire, une politique généreuse sociale. Retraite à 60 ans, une semaine de plus de congés payés, etc.
Il applique son programme.
Et alors, effectivement, maintenant, ce que disent les témoins de cette époque, Alain Jacques Attali, qui sont peut-être pas les plus honnêtes, c'est qu'effectivement, ils savaient très bien, depuis le départ, qu'ils changeraient à brève échéance, en fait, à moyenne échéance, mais qu'au moins, ils pourront dire aux Français qu'ils avaient essayé et qu'ils n'avaient pas d'autre choix.
Bah, dans le contrat démocratique, ça se tient.
Ça se tient, sauf que, en vérité, ce pas de recul pour un pas en avant du côté de la rigueur, le pas en avant est délirant. Et là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette gauche-là, est-ce qu'on peut vraiment employer ce mot, de l'entreprise, des solutions individuelles, et du chantage, effectivement, à la paresse, au râleur et au collectif qui égale le goulag, est plus efficace pour le libéralisme et pour les marchés financiers que la droite. Finalement, pourquoi est-ce que les droites conservatrices dans le monde entier ont décidé de gagner la bataille des idées en nous balançant des nouveaux sujets ? C'est parce qu'ils savaient très bien que les Fabius, et puis plus tard les Clinton, les Tony Blair, etc., étaient plus efficaces qu'eux, du point de vue là aussi du profit et du capitalisme.
Et vous avez parlé du chômage, comme s'il y avait un choix du chômage, comme si, dans le raisonnement de ces gens-là, les libéraux et certains sociodémocrates, le chômage existant permet de mettre une pression sur les forces du travail.
Bah, en fait, si vous voulez, il faut vraiment comprendre qu'il y a
derrière. Je m'explique. Genre, si vous ne travaillez pas comme on a envie que vous travaillez, vous n'avez plus d'emploi. Voilà.
Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que derrière le discours économique, qui en fait, enfin, on sait bien que l'économie c'est une grosse partie d'idéologie, hein, c'est pas une science objective. C'est surtout une façon d'imposer un savoir-être et de critiquer effectivement les attitudes individuelles de paresse, de flemme. Donc l'idée de chômage volontaire, qui est une idée délirante quand on y pense. Enfin, à l'époque où explose le chômage, avec donc faut voir que l'année 84, d'après le Secours catholique, c'est l'année du doublement, hein, x2, du nombre de cas de détresse sociale, de SDF dans les rues. Donc on est vraiment à une époque de casse sociale délirante, et on dit aux gens, par cette émission, et puis dans les discours politiques, c'est de votre faute, c'est de votre faute.
Oui, la culpabilisation du début jusqu'à la fin.
Ça, oui. c'est Alors, clair. Et vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre, parce que finalement, la plus grande trahison de la gauche, elle n'est pas dans l'espèce d'adhésion au capitalisme et dans la trahison de ses idéaux de départ. Elle est dans le fait d'individualiser tous les problèmes. La gauche incarne le collectif, le parti, le syndicat, la réunion du dimanche. Enfin, vous voyez, on aborde
la manif.
Sujets, voilà, on aborde la manif. On aborde les sujets ensemble. Mmh. Et là, non, rien ne peut être abordé collectivement. Tout est de votre faute individuelle. C'est le c'est vous de Montand à la fin avec son doigt, hein, we need you. C'est-à-dire, c'est à vous individuellement, égoïstement, qu'appartient la solution. Il n'y a plus de collectif. Quoi.
Et ça peut déboucher sur une sorte de darwinisme social. C'est un peu ce qu'il y a dans le discours de Tapie. Hein.
Ah oui, complètement.
Vous survivrez si vous adaptez, sinon...
Ah oui, Tapie, effectivement, il y a l'incarnation de ça. Je crois me souvenir que donc il avait commencé à animer des émissions de télé à ce moment-là.
Ambition.
Voilà, il y a oui. Ambition. Et avant Ambition, il y en a une qui porte ce nom délirant. Je crois que c'est Les bons, la crise et les perdants. Donc je vous rends sur le titre du western. Mm-hmm. Vous voyez, qui n'a pas dû durer beaucoup. Mais là aussi, c'est le principe même de vivre la crise. Hein. Mm. Il y a des bons. Donc le darwinisme va permettre de les sélectionner. Il y a des perdants, désolé pour eux, hein, de toute façon ils n'étaient pas assez bons. Et il y a la crise au milieu qui est ce truc génial permettant de les départager.
Il faut rappeler, quand on parlait du contexte, il faut vous rappeler que l'école de Chicago a fait des émules et que les Reaganomics, c'est ça. Et quand Reagan arrive au pouvoir, l'une de ses premières déclarations est de dire « Problem state », le problème c'est l'État. Donc tout est dit, et ça va tomber comme un jeu de domino. Toute l'Europe, le cheval de Troie, si je ne me trompe, c'est Margaret Thatcher.
Oui, alors... Là aussi, il faut se replacer dans cette époque. Parce
oui,
que,
c'est pour ça.
Évidemment, depuis, le néolibéralisme, enfin le capitalisme débridé, s'est fait beaucoup moins statophobe. Hein. Il aime bien l'État, hein, depuis quelques années. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est l'État qui
sauve. 2008.
Voilà, 2008, etc. Donc, mais à l'époque, oui, on est dans une époque très idéologique, où qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on voit en librairie? C'est les bouquins de Hayek, de Milton Friedman, et de pas mal d'essayistes.
L'école de Chicago.
Voilà, ou les Alain Minc, vous voyez, ou côté français, qui effectivement vous expliquent que c'est l'État qui finalement bride les initiatives. Voilà, il faut libérer les énergies. C'est pas par hasard que je vous sors là le slogan, il me semble, de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, hein, libérer les énergies. Parce que, voilà, on peut voir, c'était exactement il y a 40 ans cette affaire, on peut voir là l'origine finalement du macronisme. Puisqu'il s'agit de remplacer la démocratie par la compétence technocratique, c'est-à-dire par une bande de gars, plus que des femmes, il y en a quelques-unes, plus malins que les autres, qui savent mieux que le peuple, qui vont imposer des réformes que les marchés vont apprécier, et pour ça vont prendre les bonnes idées, à droite et à gauche, en dépassant ce vieux clivage droite-gauche. C'est ça l'essence de vivre la crise. Ça ressemble quand même beaucoup au macronisme.
Et quand Emmanuel Macron dit, si vous voulez, du boulot, il y en a de l'autre côté de la rue, bougez-vous, quoi. C'est ça aussi ?
Oui, oui, c'est ce chantage. Ce qui est délirant, si vous voulez, c'est que là aussi, le collectif, c'est quoi? C'est des mesures économiques, c'est des choix gouvernementaux, c'est aussi un ensemble d'intérêts financiers. Hein. 83, c'est l'ouverture de la place financière de Paris, voilà, au marché international. Donc tout ça, c'est des intérêts collectifs. Et on dit aux gens, ça n'est pas eux qui vous ont foutu dedans, c'est vous, par vos mauvais choix et par votre paresse congénitale de râleur français. Voilà. Donc en plus, avec des espèces de clichés délirants. Il y a voilà psychologie des peuples hein, d'ailleurs parce que évidemment là-dessus les Américains, les Anglais, les Allemands se marrent parce qu'ils disent évidemment on reconnaît bien nos Français là-dedans. C'est une poussée idéologique d'une violence et d'une agressivité qu'on n'a pas vue depuis finalement parce qu'elle est un peu sans filtre. Voilà, c'est une émission sans filtre. C'est ça qui est intéressant. Depuis, on a mis un petit peu plus de pincettes.
Oui, bien sûr.
Là, elle est vraiment sans filtre.
Dernière considération sur l'époque, le choix antisocial aux yeux de beaucoup est doublé d'un choix bien peu pertinent, un choix économique. Les restructurations commencent d'ailleurs sous Giscard, hein, où on pense que l'avenir, c'est le tertiaire. Donc l'industrie, il faut laisser ça aux Chinois. C'est une grave erreur qu'on regrette aujourd'hui beaucoup, la désindustrialisation.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait...
Voilà, on a deux problèmes en même temps.
Pourquoi la désindustrialisation, qui est difficile à prononcer,
c'est un semolette totalement piège.
Et pas une fatalité économique. C'est aussi un choix politique.
C'est ça, oui.
Et c'est vraiment ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'en fait, la politique effectivement menée à partir de 83 et donc validée par cette émission est une politique qui mène à la délocalisation industrielle. Mmh. En fait, le fond de l'affaire, c'est cette idée que pourquoi vivre la crise? Parce que la crise est l'occasion d'imposer un virage qu'on ne peut pas imposer spontanément. C'est ce que quelques années plus tard, l'essayiste et militante canadienne Naomi Klein appellera la stratégie du choc. Hein, ouais. Donc, ça peut être la crise, mais ça peut être, je sais pas, les attentats du 11 septembre 2001, ça peut être la pandémie. Quand il y a une catastrophe mondiale, les pouvoirs économiques et politiques se frottent les mains parce qu'ils vont pouvoir imposer un cran de plus de difficultés, d'austérité et d'autorité, en fait, aux gens qui, eux, vont évidemment devoir suivre puisque c'est la catastrophe.
Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'attention.
Ouais, ce que d'ailleurs les économistes du 19e siècle appelaient la destruction créatrice. Hein. Vive la crise puisque ça va bien vous forcer à vous bouger.
À l'oxymore.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
François, qui c'est le tournant libéral dans le monde occidental et donc en France, il y a bien des gens qui sont à la manœuvre également. Alors, je retiens quelques essais. Les Trois Mondes de Jacques Attali, L'Avenir en face Alain Minc, La Solution libérale de Guy Sorman, tout est dit, hein, La Solution libérale. Demain, Le Libéralisme d'Henri Lepage, qui est à la manœuvre également.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'émission Vive la crise, officiellement, qui est organisée par quelques individus, Jean-Claude Guibaud, éditeur au Seuil, où il édite d'ailleurs Les Nouveaux Philosophes, hein, là aussi, hein, une pensée très, très anticommuniste. Bon, on a également toute l'équipe de Libération, puisque c'est Libé qui va publier l'espèce de supplément sur l'émission. Libé qui vient de faire son tournant libéral, à peu près au même moment, en fait, deux, trois ans plus tôt, hein, en mettant fin à des grands principes, un journal maoïste créé avec Jean-Paul Sartre et les maoïstes.
On sent bourgeoise, on devient sociodémocrate.
Voilà. En fait, non, mais ils vont même plus loin, puisqu'ils ont donc accepté la publicité dans leur page, ils avaient toujours dit non, accepté de mettre fin à l'égalité des salaires, qui était un principe assez maoïste à Libération. Et puis surtout, le contenu éditorial devient délirant. Hein. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a des éditoriaux pour l'installation des missiles Pershing américains en Allemagne, parce qu'il est clair que l'Union soviétique est une menace imminente. Hein. Ils ne savent pas que la guerre froide va s'arrêter 4 ans plus tard. Mmh. Bon, donc, Libé est à la manœuvre. Et en fait, derrière ceux qui sont officiellement à la manœuvre, moi je pense que c'est plutôt la Fondation Saint-Simon qui est derrière. D'abord parce que donc la Fondation Saint-Simon, c'est ce curieux organisme qui est un think tank.
Un think tank, oui.
Ouais, un think tank à la française, créé par l'historien François Furet, le PDG de Saint-Gobain, Roger Fauroux, avec l'idée de faire se rencontrer finalement les gens qui ont les moyens et les gens qui ont les connaissances ou l'expertise, donc milieu économique, milieu universitaire plutôt conservateur, et qui va vraiment être le cabinet d'influence des années 80 et 90. D'ailleurs, c'est intéressant, la Fondation Saint-Simon s'autodissout en 1999, estimant sa mission de conversion au libéralisme accomplie.
Gagné.
Voilà, absolument accomplie. Et faut savoir que voilà, Christine Ockrent, hein, qui a accepté de faire ses faux journaux dans Vive la crise, elle et son mari Bernard Kouchner sont membres de la Fondation Saint-Simon. Serge Julie, fondateur de Libération, est membre de la Fondation Saint-Simon. Enfin, tout un ensemble de gens qui sont à la manœuvre derrière. Donc, quelque part, c'est aussi une opération idéologique qui accompagne ce que fait la Fondation Saint-Simon plus discrètement et peut-être encore plus efficacement.
Mais qui impose la doxa libérale. Et dans l'émission Là-bas, si j'y suis, animée par Daniel Mermet, diffusée sur France Inter à l'époque et consacrée à l'émission Vive la crise, le sociologue Pierre Rimbert évoque cette doxa libérale.
Vous savez, on s'est beaucoup moqué du réalisme socialiste, de ces films de propagande, de Stakhanov, etc. Vive la crise, c'est le réalisme libéral. La production à la télévision s'est déchaînée à cette époque. Deux ans plus tard, vous aurez Bernard Tapie, avec son émission Ambition, qui vous apprend en direct à fabriquer une entreprise. Le réalisme libéral, c'est aussi ces journalistes, ces intellectuels qui vont plastronner sur les plateaux de télévision pour expliquer aux gens, et en particulier aux victimes de la crise économique, qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut renoncer aux conquêtes sociales. Et c'est le thème de Vive la crise.
Le réalisme économique, ça veut dire que ceux qui pensent pas comme ça sont des doux rêveurs et des irresponsables pour le pays.
Bah, n'oublions pas, voilà, dans quelle époque on est à ce moment-là.
Ils disent bien réalisme. Hein. Mmh. Ça veut dire vous n'êtes pas réaliste, quoi.
Alors c'est une très bonne idée. Enfin, c'est une formule marrante parce que effectivement, c'est inverser le réalisme socialiste en ce réalisme-là.
Bien
mais
sûr.
On est dans une période, donc c'est finalement la fin de l'anticommunisme violent, agressif, où on explique que tout mouvement social, toute défense des acquis sociaux, toute manif, à la limite, est un éloge du goulag, enfin, va nous mener tout droit vers un régime soviétique. Il y a eu le mouvement antitotalitaire à la fin des années 70, donc on a quand même cette pression pendant 10 ans pour expliquer qu'une gauche, la gauche de Bernard Tapie et de Laurent Fabius, hein, qui vient d'être nommé Premier ministre en 1984, ça va. Toute autre gauche est un danger pour l'humanité. Donc c'est le fond de l'affaire, c'est quand même ça.
Alors ce qui est intéressant dans le récit, je trouve, c'est l'exemple de la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'on voit un pouvoir social-démocrate qui se convertit au libéralisme et qui, d'une certaine façon, baisse les bras devant ce que l'État peut faire, mais qui reste progressiste sur les sujets de société qui coûtent évidemment moins cher. Est-ce que c'est ça l'horizon de ce qui reste de la gauche?
Alors, Là, je pense que c'est ce qui... enfin, absolument, mais c'est ce qui va se passer plus tard, oui. En vérité. Parce que, entre l'émission Vive la crise et la fin du siècle, il va y avoir une poussée néoconservatrice, il va y avoir ces droites dans le monde entier, qui sont aujourd'hui au pouvoir là, dans la plupart des pays, qui ne savent plus comment se distinguer des très bons gestionnaires de gauche, et qui donc vont le faire sur des thèmes conservateurs en disant nous on n'est pas pour le mariage gay, nous on n'est pas pour le... Voilà, sur un ensemble de thèmes dits sociétaux. Parce que la gauche n'a plus trouvé comme seule distinction d'avec les conservateurs ces thèmes de société, ces thèmes dits sociétaux. Voilà. Mais à ce stade, alors c'est évidemment important et ça rejoint des questions fondamentales, mais sur le fond de cette conversion obligée au capitalisme, à l'individualisme et à la casse sociale, on va dire que c'est une diversion. C'est quand même une diversion qui a très bien marché, puisqu'effectivement la gauche s'est réconciliée avec son électorat, en tout cas à certaines reprises. Quoi.
Alors, votre dernier livre, paru en 2023, s'appelle « La haine de l'émancipation ». Que voulez-vous dire ? On a une minute, 45 secondes pour résumer un livre.
C'est un livre sur les polémiques autour de la question dite « woke », pour dire « vous croyez pas ». À l'époque de la catastrophe écologique, du capitalisme déchaîné et de l'extrême droite fasciste aux portes du pouvoir dans la plupart des pays du monde, qu'il y a plus dangereux pour l'avenir de l'humanité que les militants sexuels, écologistes ou antiracistes qui effectivement peuvent parfois déraper dans leur langage ou être un peu stricts sur ceci ou cela, mais qui clairement sont du côté de l'émancipation et non pas de la régression. Donc c'est prendre position dans ce débat-là pour rappeler à la raison.
Bon, c'est aussi une façon de rappeler que c'était pas forcément mieux avant. Hein. D'ailleurs, on le voit avec ce qui se passe dans les années 80. Et pour beaucoup de thèmes, que ce soit le regard qu'on pose sur les femmes, sur les minorités, non, ça n'était pas mieux avant. Non,
mais, et puis c'est le fait que les nouvelles générations sont pour l'émancipation, voilà, du genre, ethnique, sociale, etc. Et continuent le travail des années 60, tant mieux.
Ce sera le mot de la fin, François Cuisset. Merci infiniment. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Vive la crise, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.
En ce moment, sur l'appli Radio France, découvrez les nouveaux podcasts de France Inter.
Dachau, atroce camp de concentration situé au nord-ouest de Munich, s'est révélé à nos yeux dans toute son horreur, dans toute sa brutale réalité.
1945-2025, 80 ans après la capitulation allemande, la déportation et toutes ses victimes demeurent l'illustration de la sauvagerie nazie. Je m'appelle Philippe Collin. Et vous écoutez Les Déportés.
L'immense cortège des ombres qui survivait encore se leva sur ses jambes flageolantes.
Mais tous ceux qui ont été libérés à Auschwitz ont une seule volonté, parler pour qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz.
Tout France Inter en podcast, quand vous